France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture. Sur franceculture.fr.
Fauré, Poulenc, Duruflé, trois grands classiques de la musique vocale française. Un programme idéal pour le cœur de Radio France, emmené par sa directrice musicale Martina Batic. Le dimanche 20 octobre à 16h à l'auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr. Entrée au cœur du concert.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. 40 individus radicalisés ont été suivis au sein de la police depuis 2015 en France. Le chiffre est avancé par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Il était interrogé hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale, 6 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Le ministre reconnaît une faille grave, faille qui a permis à Michael Harpon de ne pas être repéré. 160 enquêteurs de la police judiciaire sont mobilisés. Ils fouillent notamment du matériel informatique de l'auteur de cette attaque qui a fait, je le rappelle, 4 morts. Arrêtez de nous enfumer. Voici l'une des phrases scandées par des centaines de personnes hier. Elles ont manifesté dans les rues de Rouen, 13 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Seveso. Selon les premières analyses présentées hier, les taux de dioxine dans l'air autour de l'usine sont 4 fois plus élevés que la normale. Les enquêteurs ont par ailleurs enfin pu entrer sur le site pour tenter de trouver l'origine de l'incendie. La Maison Blanche refuse de coopérer à l'enquête qui vise Donald Trump en vue d'une éventuelle procédure de destitution dans l'affaire ukrainienne. Washington estime que cette procédure initiée par les démocrates est inconstitutionnelle. La présidence a d'ailleurs empêché hier l'ambassadeur américain de l'Union européenne de témoigner. Je rappelle que les élus de l'opposition soupçonnent Donald Trump d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. En Algérie, le gouvernement a pour la première fois depuis le mois de février ordonné des arrestations lors d'une manifestation d'étudiants. 14 personnes ont été interpellées hier à Alger. Les protestateurs exigent toujours le départ de toutes les figures politiques proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Et puis notez que le pouvoir turc, épaulé par l'armée syrienne libre, dit franchir sous peu la frontière avec la Syrie. Une offensive contre les Kurdes dans la région. Les puissances étrangères s'en inquiètent. Les Kurdes participent en effet activement à la lutte contre le groupe État islamique. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF ? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains ? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Et comme tous les mercredis sur France Culture, pour bien débuter la journée, nous parlons cinéma. C'est avec Toufik Hakem à 6h03.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, aux lève-tôt qui nous écoutent à la radio, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, ainsi qu'aux fidèles abonnés au podcast de l'émission. Cinéma au programme comme tous les mercredis, avec comme invité ce matin Lorenzo Mattotti pour la fameuse invasion des ours en Sicile, son premier long-métrage d'animation adapté d'un roman pour la jeunesse de Dino Buzzati. Ce beau film dévoilé lors du dernier festival de Cannes sort aujourd'hui en...
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Maestro, bonjour Lorenzo Battotti.
Bonjour, merci.
Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous interviewer. En tant qu'illustrateur et auteur de bande dessinée, on a déjà eu l'occasion de nous rencontrer. Et d'ailleurs, à chaque fois, au fil des ans, quand je vous demandais après l'émission quel est votre chantier actuel, pendant de nombreuses années, c'était inlassablement la même réponse. Je travaille sur l'adaptation d'un roman réputé inadaptable de Dino Buzzati. Voilà, maintenant c'est fait. Le film « La fameuse invasion des ours en Sicile » sort enfin en salle, aujourd'hui.
Oui, enfin. C'est...
Ça vous a pris combien de temps? Combien d'années?
Plus ou moins 6 ans.
Ouais, c'est ça.
6 ans de travail, de désespération, de force, d'énergie, d'enthousiasme. Oui, les premières, c'était les traitements, de partir du livre. Je pensais que c'était plus facile. En fait, on s'est aperçu avec mes copains Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain, les co-scénaristes qui m'ont aidé au traitement.
Alors, un qui vient du cinéma et un autre qui vient de la bande dessinée. Hein. Vous êtes,
oui,
vous êtes
mais,
vraiment entre les deux mondes.
Oui, Jean-Luc Fromental, quand même, il a fait aussi des scénarios d'animation. Et oui, c'était un bon duo, un bon trio. Hein? Moi, avec les images, Thomas, c'est un vrai animal bête de cinéma. Et Jean-Luc, avec toute sa culture littéraire, Jean-Luc Fromental, toute sa culture littéraire. Bon, il y avait des complications, parce qu'on s'est aperçu tout de suite qu'il n'y avait pas un personnage féminin.
Et que cela ne se faisait plus, de nos jours.
Non, c'est impossible maintenant. Et que la structure des romans, quand même, lui, il a publié comme un feuilleton au départ.
Ouais. Dino Buzzati, ouais.
Oui. Et on voit que c'est une histoire qui s'inventait de semaine en semaine, tu vois. Et il y a des logiques littéraires que ça passe pas dans la logique cinéma. C'est-à-dire, il y avait des trous dans l'histoire. On a essayé mais moi j'ai essayé de les respecter le plus possible, absolument, et on a inventé les narrateurs, les cantastories, cette couple Gédéon, le vieux Gédéon et la petite Almerina qui se promènent dans les montagnes de la Sicile et ils vont d'un village en village à raconter des histoires.
Et donc l'histoire du film, l'histoire de la fameuse invasion des ours.
Exactement.
En Sicile, adaptée d'un roman pour la jeunesse de Dino Buzzati, sorti en 1945. Et c'est un drame, ben c'est un drame aux couleurs chatoyantes, hein, comme vous savez les faire, Lorenzo Mattotti. Alors, c'est l'histoire d'un peuple d'ours qui s'installe en Sicile et qui doit cohabiter avec les hommes, hein, c'est ça. Alors, les ours, quand même, ils ont réussi à vivre dans la montagne, laissant les humains dans les plaines, jusqu'au jour où cet équilibre va être bousculé par, effectivement, le rapt. Tonio, le fils de Léonce, le roi donc des ours, est capturé par une bande de chasseurs.
Oui, et c'est la faute de roi Léonce. Enfin, il s'est distrait un moment dans sa leçon pour pêcher les saumons, et son fils est kidnappé. Et il décide, évidemment, après 2 ans de dépression, la tribu, en plein hiver, la tribu, ils ont faim et tout ça, et ils essaient de les pousser à chercher son fils dans les royaumes des hommes.
Et l'aventure commence.
Tonio !
Léonce, qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes ?
Tonio ? Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec moi, le clan!
Sire, sire! Des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile!
Une invasion de ours.
Massacrez-les!
Qui es-tu?
Professeur des Ambrosis, magicien et ami des ours.
Mais qu'as-tu fait?
J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme. Tu n'es même pas un ours, incapable de pêcher un saumon.
Et La fameuse invasion des ours en Sicile, le film de Lorenzo Mattotti, mon invité ce matin, sort aujourd'hui en salle. Il a été présenté en avant-première au dernier festival de Cannes et c'est un film d'aventure aussi. Avant de parler de l'histoire, du drame, de toutes les idées que vous avez pu développer à travers ce conte, parce que ça reste quand même une fable, un conte, Lorenzo Mattotti, il y a de l'action.
Ah oui, il y a beaucoup d'action, parce que la conquête de royaume des hommes, ça fait dans plusieurs étapes. Ils rencontrent des monstres, des créatures étranges, des fantômes, et toujours essaient de l'affronter avec une grande naïveté, avec une grande douceur de part des ours, qu'ils connaissent pas vraiment la réalité des hommes. Et il y a de l'aventure,
des
guerres, des batailles, des cirques. C'est vrai que c'est une grande histoire pleine de fantaisie et pleine d'images spectaculaires aussi, mélangées avec une histoire profonde, riche, pleine de nuances. Les personnages ne sont jamais manichéens. On croit que quelqu'un il est bon, après on voit qu'il est moins bon. Quelqu'un
et vice versa d'ailleurs.
On a l'impression qu'il est méchant, mais en fait il arrive à faire du bien. C'est très très complexe, justement comme complexe est la réalité.
Tout ça bien sûr en animation. Est-ce que vous vous souvenez des sentiments, des sensations que vous avez eues, Lorenzo Mattotti, quand vous avez lu pour la première fois ce conte, la fameuse invasion des ours en Sicile?
Je lisais tout de Buzzati. Je l'avais découvert vers 15 ans, 16 ans, à l'école, un peu comme ça. En fait, lui, il avait écrit et dessiné une bande dessinée dans les 71, un roman graphique, un poème en image, c'était très étrange pour un grand écrivain très connu en Italie qui faisait de la bande dessinée. Pour moi, c'était un choc et c'était magnifique qu'un écrivain faisait de la bande dessinée. Pour nous, moi, je voulais faire de la bande dessinée. Et le fait qu'il faisait aussi un écrivain, c'était encore, ça m'est poussé encore plus pour la faire. Et alors, j'ai lu ses livres, j'ai lu ses fables, et évidemment, Les ours en Sicile. Il faut dire que Buzzati, il était dessinateur, peintre, aussi. Il disait parfois que je suis un peintre qui fait du journalisme, qui écrit, quand il sait pas quoi faire.
Il veut dessiner.
En fait, c'est le contraire, ouais. Parce que t'es un grand écrivain, un grand journaliste, il travaillait comme journaliste, et après, il faisait du dessin. Non, pour dire que l'image et les dessins, c'était une grande partie de son travail.
Mais qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce livre de Buzzati? Parce que...
Mais les possibilités de développer...
Graphiquement,
comme histoire, comme elle était racontée, j'ai trouvé bizarre que personne jamais l'avait fait avant. Parce que c'était une grande histoire spectaculaire, fait exprès pour le film d'animation. Et ça m'est arrivé naturel quand Valérie Sherman, ma productrice, m'a demandé « Mais Lorenzo, qu'est-ce que tu voudrais faire si tu fais un long métrage d'animation ?» Moi, je lui ai fait lire les livres. Elle a beaucoup aimé. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a commencé. Je me suis dit « Faire un long métrage d'animation, ça prend tellement de temps, ça tellement d'énergie qu'il faut que le projet soit vraiment fort. » Qu'il y a un intérêt aussi du public. Mélanger la littérature de Buzzati avec mon dessin, passer aux enfants un roman de la tradition, notre tradition culturelle italienne, mitteleuropéenne. Buzzati, il était très fasciné par Kafka, par tous les visionnaires un peu de l'Est. Et ça fait partie vraiment de notre tradition aussi méditerranéenne. Il y a des légendes, des histoires anciennes. Buzzati arrive à les raconter d'une façon très naturelle.
Et ce côté comédia dell'arte, elle était déjà présente dans le roman de Buzzati ou ça c'est vous qui avez imposé cette culture-là pour raconter cette histoire?
Ça c'est plutôt nous. Quand on a inventé Gedeon Almerina, les narrateurs, et quand on a commencé à faire les dialogues entre les personnages, Ambrosis, Léoncio, tout ça, et parfois il y a des dialogues très drôles aussi de Buzzati que nous on a amené, c'est comme des masques, des marionnettes, vous savez, Ce livre, il était réduit aussi par des spectacles de marionnettes. Il y avait eu des concerts liés aux ours. Il y a eu un moment qu'il y avait, dans la radio, ils avaient fait un spectacle radiophonique.
Une adaptation radiophonique.
Et les dialogues, ils se prêtent beaucoup à ces jeux aussi très drôles, la comédie de l'art, plus que la comédie italienne du cinéma. Dans la version italienne, on a joué un peu plus avec les dialets. Sicilien, napoletain, vénétien, ça rassemble un peu des comédies de Goldoni. Vous savez que dans les films d'animation, on enregistre d'abord les voix des acteurs. Ça aide beaucoup les animateurs et pour le rythme aussi de la narration.
Donc ça a commencé avec les voix françaises.
Oui. En fait, aussi les scénarios, les traitements, c'était fait en langue française, que pour moi, c'était un peu une pirouette mortale.
Je ne sais pas si on a reconnu les voix tout à l'heure de Laila Bakhti et de Arthur Dupont, mais ils faisaient partie de ces voix que vous avez utilisées. Oui. Mais quand vous dites « après, j'ai joué avec les accents italiens ».
Oui, parce que quand on a fait les doublages italiens, on avait une version italienne aussi.
Ouais.
Et là, j'ai pu un peu jouer un peu plus sous les accents, sous les dialects italiens, un peu plus à la comédie de l'art, à la comédie italienne.
Et puis un hommage à Fellini, ou alors j'ai...
Il y a des hommages un peu tous. Bon, Fellini, ça fait partie de notre culture, évidemment. Il n'y a pas vraiment des choses très précises, mais un peu semées. Pour moi, quand j'ai pensé à certains dialogues, j'ai pensé à Brancaleone, à Monicelli, la façon d'utiliser les mots étranges et tout ça.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Lorenzo Mattotti pour la fameuse invasion des ours en Sicile. Donc c'est votre premier long métrage d'animation, mais c'est pas votre premier film d'animation puisque vous avez aussi participé à ce film collectif Peur du Noir. Mais quand on est metteur en scène d'un film d'animation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on choisit les animateurs, ceux qui vont faire les dessins, ceux qui vont reprendre vos dessins. C'est quoi être metteur en scène d'un film d'animation?
Moi, je me suis pas trop occupé de l'organisation parce que c'est un casse-tête hallucinant.
Mais la musique, par exemple, René
Aubry,
c'est vous.
La musique, ouais. J'avais déjà dans la tête la musique de René Aubry, que c'est un vieux copain, et je voulais une musique légère, dansante, méditerranéen, comme lui l'a fait, et qui m'allégeait un peu tout l'atmosphère du film. Il a fait un grand travail. Et oui, évidemment, j'ai choisi les voix des personnages, j'ai choisi les décors, j'ai fait beaucoup de dessins. Le fait que je suis dessinateur, j'ai fait 2-3 storyboards de préparation.
Et là, les parties de prix de la mise en scène étaient déjà présentes dans vos storyboards, dans vos dessins?
Oui, il y a des partis pris très forts, et après avec les storyboardistes on a fait vraiment le travail de découpage des plans, des scènes. Ça, c'est très compliqué pour moi, que je viens de la bande dessinée. C'est un autre langage, le cinéma. Mais heureusement, j'avais des collaborateurs extraordinaires. Il faut dire que la plupart de mes collaborateurs venaient de la... C'est la même équipe de la Tortue Rouge. Alors, c'est des gens, des professionnels avec une grande expérience qui m'ont aidé, qui m'ont collaboré avec mon film et qui ont ajouté les talents. Des talents de l'animation, des décors et tout ça. Évidemment, moi j'étais un peu le chef d'orchestre. J'ai essayé d'utiliser tous les talents des autres avec les dessins originaux de Buzzati et mon expérience de dessinateur. On a créé, on a travaillé sur cette cathédrale longue, lente, énorme, que c'est un film d'animation.
Cette fable est-elle une fable politique, Lorenzo Mattotti?
Oui, mais tout au début, on dit, bon, il y a des références, parce que lui, il a commencé juste avant la fin de la guerre. Il avait fait un certain moment un dessin de la ville qui ressemblait un peu trop à Berlin. Et les journaux, il a censuré, dit, tu peux la changer un peu. Et les grands-ducs, il aurait pu être vraiment Hitler, et tout ça. Mais, moi, quand je l'ai lu, quand j'étais jeune, je l'ai lu, j'avais rien lu de cette référence. C'est vraiment des références liées à la période historique que lui l'a fait. Et maintenant, quand on lit les livres, on voit pas du tout cette référence. On voit, par contre, beaucoup d'autres sujets qui sont...
De l'actualité.
Oui,
contemporains. À commencer par les migrants.
À commencer à la convivance, à l'immigration, à les rapports entre père et fils. Les pères qui voient son fils changer. C'est-à-dire, c'est un ours, mais à peu il devient un ours qui il a la culture des hommes. Ils n'aiment pas pêcher les saumons. C'est-à-dire, quand il lui dit « J'ai conquis la Sicile et tu n'es même pas un ours », c'est très fort comme sujet aussi pour nous. C'est très contemporain, en fait. Moi, je suis arrivé en France, je suis italien, ma femme est italienne, mais mes enfants, ils ont grandi dans une école française. Et à peu, ils parlaient français, ils savaient rien des racines italiennes, de la culture italienne.
Et tu les vois
changer. Tu les vois changer. Oui, ça fixe avec la famille 20 ans. Et alors, comme passer à eux mes racines, comme passer à eux ma culture, comment le faire, tu vois? Très important, la transmission de la culture. Que moi, je suis italien, évidemment, c'est très important, parce que ça fait partie de mes racines, et c'est important d'enrichir à eux en plus. Et je crois que c'est très important toujours, la mémoire de où nous vient, nous on venons. Je crois que c'est très important. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait faire ces livres. Prendre un livre des années 60 et pas toujours les Pinocchio qu'ils ont déjà fait 30 fois. Moi, j'ai collaboré en Pinocchio. Mais quand on va voir des livres qui peuvent être pour les enfants, on tombe toujours sur les mêmes classiques. Et moi, je voyais dans ces livres un grand classique
Bizzati, bien sûr.
Et une grande richesse. Les rapports entre la civilisation et la nature, évidemment, non? Les ours sont purs, ces créatures pures qui arrivent et commencent à salir avec tous les vices des hommes. La perte de la nature et le rapport avec les montagnes qui est à Léoncio. Une autre chose, c'est la soif de pouvoir, évidemment. Pas arriver à gouverner avec des choses plus grandes que nous. Lui, il arrive et se retrouve à gérer un peuple fait des humains et des ours. Il croit que tout va bien. Mais en fait, non, il y a des problèmes. Il faut les voir, les problèmes. Il y a plein de sujets à l'intérieur. Évidemment, il ne les résout pas, mais il les donne. Il les fait réfléchir. Et moi, je crois que c'est très important pour les enfants. Et il les raconte avec douceur. Il les raconte pas avec cynisme. Ça que j'aime bien. C'est pas une histoire cynique. Elle est dramatique, elle est doux. Elle est une fable. C'est une grande fable. Il faut dire encore plus. Je crois qu'il y a à l'intérieur de ce livre, de ce film, il y a aussi la joie de raconter. La joie de raconter des histoires et comme les raconter et de s'inventer des histoires.
La fameuse invasion des ours en Sicile ressort dans une version plutôt luxueuse chez Gallimard, mais aussi en version poche. C'est à l'occasion de la sortie de votre film aujourd'hui. Lorenzo Mattotti, vous parliez des enfants. Je vous ai vu souvent avec des enfants ces dernières années. La dernière fois, c'était à la Cité de la Musique. Vous étiez en train de dessiner pendant qu'un orchestre classique jouait pour les enfants. C'était un concert dessin pour les enfants. Pourquoi ?
Bah, c'était magnifique, c'était une occasion extraordinaire pour moi. La grande orchestre de la Philharmonie m'ont demandé de faire un concert dessiné sur la peur et sur Hansel et Gretel. On a créé des petites animations, des petites compositions, et dans certains moments, moi, j'ai dessiné en direct cette image d'Hansel et Gretel. Et les enfants, ils ont adoré. Vous imaginez la force de la musique de l'orchestre avec voir une main qui crée des tâches, qui crée des dessins, qui crée des choses, qu'après ça devient des images, et les enfants, ils étaient tous là. Et moi, je crois que c'est très important, c'est de les passer, cette magie de dessiner, cette magie d'écouter la musique. En fait, ils entendaient de la musique classique très, très importante avec un jouant.
Diriez-vous la même chose pour le film, La fameuse invasion des ours en Sicile, c'est-à-dire parler des choses sérieuses, parfois graves, mais à des enfants, et réussir le défi de justement leur raconter aussi ça?
C'est très, très, très important. Moi, j'espère. J'espère, on a fait des avant-premières et les enfants, ils ont adoré. Ils ont dit, il y aura une autre continuation des ours. C'est quoi les mystères des ours? Ils étaient complètement dedans. Ils disent, oui, on a eu un peu peur, mais c'était beau, tu vois. Il faut trouver la façon de raconter des choses sérieuses, mais avec la sérénité, la joie, la douceur, en respectant les enfants. Tu vois, tu peux les faire accepter beaucoup de choses si tu trouves le bon langage.
Le mot que l'on puisse dire, c'est que vous l'avez trouvé, ce langage, avec ce film. Vous êtes content de ce film, Laurent Zola?
On a fait le plus possible, oui, je crois que...
Vous l'avez porté pendant 10 ans, vous m'en parliez sans cesse.
Oui, c'était terrible. C'était le plus grand exercice zen que j'ai jamais fait dans ma vie, en fait.
Mais cet intérêt que vous avez pour les enfants, pour le spectacle à destination des enfants, Lorenzo Mattotti, que ce soit à travers ces concerts dessinés que vous faites avec la Philharmonie ou même à travers ce film, on a l'impression que c'est très important pour vous.
Bah oui, c'est très important d'abord lui donner essayer de lui donner des imaginaires différents des images différentes de celles que tout le temps eux ils voient, qu'ils sont bombardés dans les grands pouvoirs médiatiques,
c'est-à-dire les Walt Disney, les mangas.
Bah oui, tout ça en fait.
Même s'il y a du bien chez Walt Disney.
C'est très bien, il y a du bien, mais j'ai l'impression que ils ont tous, à la fin, la même idée de comme doit être un personnage, comme doit être les formes, c'est les formes, c'est l'esthétique. Il peut s'imaginer que les personnages, peut-être, ils ont des petits yeux et pas des énormes yeux tout le temps. Il peut penser qu'on peut faire les montagnes de façon différente, on peut dessiner, on peut penser à les histoires avec des formes pas tous pareilles. Si j'ai l'impression que les enfants, tu lui demandes un enfant, ils te dessinent exactement, ils vont dessiner exactement tous la même fille, la petite fille avec des yeux énormes, avec les petits nez, les trucs blondes.
Culture manga, c'est ça?
Non, oui, manga américain, bon, la princesse des glaces, tout ça. Et en fait, si quelqu'un il a un imaginaire un peu différent, peut-être il le fait même pas parce qu'il a peur d'être pas comme les autres. Et en fait, en lui donnant d'autres signes, d'autres images, d'autres choses, il peut.
Et puis surtout en racontant des histoires de personnages qui peuvent être à la fois bons, mais assez compliqués, que le méchant n'est pas forcément tout le temps méchant. Et puis surtout, dans la fameuse invasion des ours en Sicile, on le voit bien, c'est aussi les préparer à des choses plus graves que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les dessins animés, hein, c'est-à-dire le pouvoir, la guerre.
Aussi la structure de l'histoire différente.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
C'est un film qui va plaire aux enfants sans déplaire à ceux qui vont les accompagner, c'est-à-dire les grands, c'est-à-dire nous. Merci Lorenzo Mattotti. Merci d'être venu ce matin pour nous parler de la sortie de votre film en salle. Aujourd'hui, film d'animation donc, La fameuse invasion des ours en Sicile.
Merci beaucoup à vous.
Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et Guillaume Ledu à la prise de son ce matin. Le Réveil culturel est à retrouver sur franceculture.fr. Nous on se retrouve demain pour un Réveil culturel spécial musique.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, comprendre, chaque jour, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Je vous attends chaque jour de la semaine dès 7h pour 2 heures d'actualité, d'analyse et de commentaires en compagnie d'artistes, d'intellectuels et de journalistes de la rédaction de France Culture.
Les matins de France Culture, de lundi à vendredi à 7h et sur franceculture.fr. Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Pourquoi faut-il vacciner les garçons contre un virus qui donne des cancers aux filles? Qu'est-ce que la norme Céveso et comment sont protégés les sites à risque en France? L'orbite terrestre est-elle en train de se transformer en péage de Saint-Arnoux? Un dimanche soir de retour de vacances et les secrets de la machine de chiffrement nazi Enigma craquée par Alan Turing, racontée par son neveu Dermot. Autant de questions que nous aborderons méthodiquement jusqu'à preuve du contraire.
La méthode scientifique, cette semaine à 16h et sur franceculture.fr, en partenariat avec Science et Avenir.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Christophe Castaner avance le chiffre de 40 individus radicalisés, écartés ou suivis au sein de la police. Comment mieux les identifier? Le ministre de l'Intérieur était auditionné hier à l'Assemblée nationale, près d'une semaine après l'attaque dans la préfecture de police de Paris. Nous reviendrons sur cette audition et sur les questions qu'elle soulève. Nous irons aussi au procès Karachi sur le volet financier de l'affaire. Hier, l'ancien directeur de la direction des constructions navales était entendu. La Turquie menace d'intervenir à la frontière avec la Syrie. Cela se fera sous peu, dit Ankara, qui vise toujours les Kurdes. Le groupe État islamique dans la région pourrait en profiter, vous le comprendrez. Et puis nous vous expliquerons pourquoi l'homme de Vitruve, célèbre dessin de Léonard de Vinci, pourrait rester en Italie et ne pas être exposé au Louvre à Paris comme prévu. Rome et Paris se déchirent encore. Christophe Castaner a donc été entendu hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, c'était jeudi dernier. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu hier sur le passé de l'auteur de cette attaque, Michael Harpon, et le fait qu'il se soit félicité des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Cela n'avait pas fait l'objet d'un signalement écrit et ce fut donc un dysfonctionnement sérieux, selon le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner qui a également évoqué les cas de policiers radicalisés.
Je peux vous donner ce nombre de 40 individus radicalisés au sein de la police, suivis par une cellule spécifique au sein de la DGPN. Et je peux vous dire que pour tous les cas où le risque de radicalisation a été caractérisé de façon suffisante, ces agents ont été écartés. J'utilise un mot qui n'est pas un mot administratif parce que tous les moyens ont été utilisés pour que ces agents ne restent pas dans la police. La moitié sont partis. Il reste 19 ou 20 cas qui sont suivis attentivement, sur lesquels les signaux sont des signaux faibles, qui ne caractérisent aucune anomalie pénale, mais ils font l'objet d'une attention toute particulière. Chacun est en responsabilité à tous les niveaux pour que cela puisse arriver à fonctionner.
Une société de vigilance, disait d'ailleurs un peu plus tôt le chef de l'État Emmanuel Macron lors d'un hommage rendu aux 4 victimes de l'attaque. Comment éviter un tel drame? On s'interroge aussi dans les rangs de la police, Ariane Grissel.
En 2015, les propos de Michael Harpon sont bien rapportés à un supérieur, mais pendant une discussion informelle, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, veut donc désormais un signalement automatique. Philippe Capon, secrétaire général d'UNSA Police, juge, lui, que c'est surtout à la hiérarchie de prendre les choses en main.
Que les choses puissent se traiter calmement et qu'on puisse aussi, sur des signaux, pas demander aux fonctionnaires de la base de faire le boulot que certains ne veulent pas faire. Si les collègues signalent des choses qu'on ne nous dise pas, il faut écrire. Le signalement, il est verbal, il n'y a même pas besoin d'en parler à la personne intéressée, parce qu'on voit que c'est parfois un déclic sur le fait qu'il y ait une attaque qui se passe.
Des signalements confidentiels pour ne pas précipiter un éventuel passage à l'acte, mais aussi pour éviter les conflits dans les services. Yves Lefebvre du syndicat de policiers Unité SGPFO plaide, lui, pour la création d'un système de signalement en ligne.
Aujourd'hui, pourquoi des signalements ne sont pas faits? Parce que l'agent qui va être amené à faire ce signalement subit la lenteur administrative. Aujourd'hui, on doit pouvoir le faire à travers une plateforme en temps réel, directement au service en charge des vérifications que sont les services du renseignement. Mais aussi, il faut former en amont les gens, que les policiers puissent avoir, je dirais, les indicateurs nécessaires à évaluer la potentialité d'une radicalisation.
Aujourd'hui, la détection des agents radicalisés est confiée à une cellule de la Direction Générale de la Police Nationale. Son travail a conduit à écarter une vingtaine de policiers de leurs fonctions depuis 2015.
Il dénonce des files d'attente invisibles devant les préfectures d'Île-de-France. Une cinquantaine de migrants vont déposer aujourd'hui des recours en référé contre l'État français. Il est devenu, selon eux, impossible d'obtenir un rendez-vous sur Internet afin de régulariser leur situation. Des rassemblements sont ainsi prévus cet après-midi devant les préfectures de Nanterre, Bobigny, Créteil et Évry. Le volet financier de l'affaire Karachi est toujours examiné au tribunal correctionnel de Paris. On y juge le financement présumé illégal de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Début des auditions hier et Dominique Castellan, ancien directeur de la DCNI, la Direction des Constructions Navales, était auditionné. Il affirme que l'ordre d'avoir recours au réseau K pour appuyer les contrats d'armement, que cet ordre venait bien du ministère. Compte rendu d'audience signé Florence Turme.
Pantalon beige et veste polaire marine, le crâne à peine dégarni, à 82 ans, Dominique Castellan a perdu un peu de ses facultés d'audition, mais conservé une allure sportive et un esprit vif. Entre les politiques proches d'Édouard Balladur et l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, il est aussi l'inconnu de ce dossier, poursuivi pourtant pour abus de biens sociaux au détriment de la DCNI, la société dédiée au commerce de la Direction des Constructions Navales. Il est nommé à sa tête en 91, les réseaux d'influence sont monnaie courante, la pratique légale. Vous voulez dire qu'à cette époque, on pouvait corrompre, glisse son avocat. C'était indispensable, sinon on ne remportait jamais aucun contrat. Et c'est le réseau Lodi qui s'impose alors dans les relations avec le Pakistan jusqu'au jour de mai 94 où Dominique Castellan est convoqué au ministère de la Défense. Rencontre Renaud Donodieu de Vabre qui lui parle de Ziad Takieddine. Conseil insistant, précise Dominique Castellan. Les demandes lui semblent élevées, 8% au départ, des négociations sans engage. Vous n'avez pas l'air très convaincu des prestations de Takieddine et de son réseau, intervient la présidente. Je suis convoqué une nouvelle fois au ministère, reprend le prévenu, reçu cette fois par un membre du cabinet et l'on me dit « Cessez de tergiverser, vous passez commande à ce réseau à hauteur de ce qu'il a demandé. » Oui, insiste Dominique Castellan, j'ai reçu cet ordre formel.
C'était Florence Turme. Le mouvement écologiste international Extinction Rébellion poursuit ses actions dans le monde entier. Elles doivent durer 2 semaines. Hier, la police londonienne a évacué plus de 450 militants installés dans le centre de Londres, près du quartier des ministères. L'armée turque va franchir sous peu la frontière turco-syrienne. Voilà ce qu'annonçait cette nuit le directeur de la communication du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Sur le réseau social Twitter, il prévient ainsi les combattants kurdes qu'Ankara empêchera de nuire s'ils ne quittent pas la frontière. Les Kurdes luttent toujours contre le groupe État islamique sur place avec le soutien des puissances occidentales. Ils détiennent d'ailleurs des milliers de prisonniers de Daesh. Que vont-ils devenir en cas d'offensive turque? Hugo Lanoé a posé la question à Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Voici sa réponse.
Non seulement l'État islamique, quoi qu'en pense et quoi qu'en dise M. Trump, n'a pas été éradiqué. Certes, l'État islamique, et ma foi tant mieux, a subi des défaites militaires très importantes, mais nous savons aussi qu'une partie de ses militants, de ses cadres, de ses combattants sont rentrés dans la clandestinité. Or, la politique ayant horreur du vide, s'il y a une zone d'instabilité nouvelle qui se crée au nord-est de la Syrie à cause de l'intervention militaire de la Turquie, eh bien, immanquablement, les djihadistes vont profiter de cette situation de déstabilisation accrue pour tenter de relancer des opérations. Nous savons qu'une partie des djihadistes prisonniers, mais ils sont quand même au nombre d'environ 10 000. Donc là aussi, le danger sera accru. Donc tout cela est évidemment infiniment inquiétant, non seulement pour la stabilité des pays au premier chef concerné, la Syrie et l'Irak, mais plus largement pour des pays comme ceux de l'Union européenne, de la France, qui ont déjà été victimes d'attentats et qui pourraient l'être à nouveau si l'État islamique, sous cette forme ou sous d'autres formes, replanifie un certain nombre d'opérations terroristes.
C'était le directeur adjoint de l'IRIS, Didier Billion. La Maison-Blanche indique qu'elle ne va pas coopérer pour l'enquête sur une possible destitution de Donald Trump. Une enquête illégitime, selon la présidence américaine. Un peu plus tôt hier, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne avait été empêché de témoigner. Un lanceur d'alerte accuse, rappelons-le, Donald Trump d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour qu'il ouvre une enquête sur le démocrate Joe Biden. Notez aussi en bref qu'Angela Merkel juge un accord sur le Brexit improbable. La chancelière allemande l'a dit hier au chef de gouvernement britannique Boris Johnson. Les négociations se poursuivent avec l'Union européenne d'ici le 31 octobre prochain, jour d'un Brexit programmé. L'homme de Vitruve sera-t-il visible dans quelques jours au Louvre à Paris lors de la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci. Cette exposition débute le 24 octobre, mais le célèbre dessin est toujours en Italie, sur décision de justice. Bruce de Gelsin nous explique pourquoi.
L'homme de Vitruve était le symbole de l'unité retrouvée entre Italiens et Français. L'accord de paix, signé il y a seulement 2 semaines, mettait fin à une querelle que l'on voulait croire lointaine. Mais finalement, c'est une association, Italia Nostra, qui a obtenu que ce soit la justice et non les États qui décident du sort des œuvres de Vinci. Cette association de défense des biens culturels s'élevait depuis plusieurs mois contre le prêt des œuvres du maître de la Renaissance pour des motifs scientifiques et de sauvegarde du patrimoine. Mais avec des relents nationalistes, la présidente de l'association dénonçant un accord entre les deux États qui plaçait l'Italie en position de subalterne par rapport à la France. Et c'est tout l'accord qui est remis en cause. Les 5 œuvres que devait prêter Rome à Paris resteront sur le territoire national en attendant la décision du juge 1 semaine seulement avant le début de l'exposition. Mais s'il décide de bloquer les œuvres en Italie, les peintures et dessins de Raphaël, que le Louvre devait prêter l'an prochain en échange des œuvres de Vinci, devront-elles rester à Paris ?
Le temps ce mercredi sur la France métropolitaine, il sera agité avec des pluies sur tout le territoire, sauf près de la Méditerranée. Ce matin, comptez 12 degrés à Lille, 13 degrés à Paris, 15 à Strasbourg, 21 à Marseille. Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, vous parlez politique dans votre journal des idées ce matin. Crise de la représentation, abstention, déclin des partis traditionnels et montée du populisme. Nos démocraties traversent une période de turbulence qui suscite, Jacques, de nombreuses analyses.
Absolument. Ce que certains appellent déjà le moment Macron, par exemple, est à la une de 2 revues, Le Débat et Esprit. Un nouveau monde politique, titre cette dernière en forme d'interrogation, ce que Jean-Louis Schlegel résume ainsi. À mi-mandat du quinquennat d'Emmanuel Macron, après 2 ans et demi d'une vie politique plutôt agitée, placée à l'intérieur sous le signe des réformes et des résistances aux réformes, puis des gilets jaunes, à l'international dans un contexte de menaces multiples, du terrorisme à l'installation de nouveaux pouvoirs autoritaires et au recul du droit international, il est temps d'interroger ce qu'est devenu la promesse du nouveau monde politique annoncée pendant la campagne électorale de 2017. Il évoque la qualification de post-politique qui est employée pour désigner la recomposition qui se produit sous nos yeux, marquée notamment par un déclin de la social-démocratie qui ne convainc plus, du fait sans doute de son évidement propre, la montée des préoccupations écologiques, le changement des pratiques et des outils de communication et d'organisation politique qui favorisent tout à la fois des phénomènes d'hyper-incarnation et des mobilisations spontanées, horizontales, font partie du constat, à tel point, ajoute-t-il, que l'on peut se demander si notre moment ne serait pas plutôt pré-politique. De nouveaux clivages et de nouvelles forces attendent de s'affirmer. Anne Dugin se demande à propos du dépassement postulé du clivage gauche-droite, qui selon elle s'observe aussi dans la plupart des démocraties occidentales, si ce n'est pas plutôt sa traduction institutionnelle qui est en cause. Au-delà de la démocratie du public où se forment des coalitions éphémères d'intérêts autour d'une personne qui incarne à un moment donné la possibilité de nouvelles actions collectives, les sujets continue de polariser selon les fondamentaux de ce qu'était l'appartenance à la gauche ou à la droite. En reformulant ce clivage en termes de progressisme et populisme, Emmanuel Macron n'aurait fait que suivre la pente fatale de nombreuses démocraties occidentales, estime Michael Fossel. politique post-partisane et exécutif fort. L'ironie est que ces deux piliers du macronisme ont été adoptés par les adversaires les plus irréductibles du nouveau pouvoir, relève-t-il également. Il ne faudrait pas que le fantasme d'un monde post-politique où triompherait l'entrepreneuriat heureux finisse par aboutir à une situation pré-politique où les conflits sociaux et identitaires ne trouvent plus aucun moyen de s'exprimer par des voies institutionnelles, conclut-il. Pour Nicolas Rousselier, dans l'échange organisé par la revue Le Débat avec Marcel Gauchet, le clivage qui s'annonce repose sur la cause écologique de l'environnement. Il y a toujours des idées progressistes et des idées plus conservatrices, mais elles sont en état de flottaison dans la société. La politique elle-même, c'est-à-dire l'élection principale, se fait sur une rencontre et une cristallisation. Il en veut pour preuve l'extrême volatilité de l'électorat qui faisait dire à François Hollande, un stratège en la matière, que ce sont maintenant les indécis qui font la décision. Dans un ouvrage co-signé avec Jean-François Boutor et publié chez François Bourin sous le titre « Démocratie, hic et nunc », Jean-Luc Nancy constate que s'il n'y a plus de philosophie politique, c'est parce qu'il n'y a plus de politique au sens d'un projet de transformation et d'invention de nos rapports. Ceci se trouve plutôt circonscrit, voire absorbé par un régime de communication générale des informations et des opinions dans lequel le projet n'a plus que la consistance gélatineuse de l'opinion. Or, selon le philosophe, la démocratie relève d'un enjeu plus que politique. La démocratie, écrit-il, recouvre avec la nécessité d'organiser le groupe lorsque rien de transcendant n'y pourvoit, le sens même de l'existence humaine. Elle n'est pas une option politique, mais la politique telle qu'elle permette le libre exercice de ce sens. Tous deux en appellent à ce concept de transcendance, mais en un sens laïque, l'auto-transcendance, le superlatif de l'intimité de la communauté démocratique, le sens du collectif en chacun de nous, c'est-à-dire plus que la simple addition des forces, la force intérieure plus grande que la juxtaposition ou la coïncidence des forces individuelles. Ce serait le principe élémentaire de la démocratie, l'affirmation d'un « nous » dans lequel chaque jeu engage l'expression de son irréductible incommensurabilité, et les moments de crise peuvent être favorables à une prise de conscience. Dans l'histoire des cinq républiques de notre pays, pour durer, la démocratie devait elle-même se réinventer à partir de ses faillites et de ses faiblesses. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais sous l'angle du soja.
Oui, comme il n'est pas facile de mesurer et d'imaginer les effets concrets de cette guerre commerciale que les États-Unis ont d'abord déclarée à la Chine au printemps 2018, l'accusant de voler les États-Unis, lui voler notamment des emplois dans une concurrence déloyale face à l'industrie américaine, l'arme de Washington, la hausse des tarifs douaniers sur les produits chinois. Pékin a rétorqué en faisant de même et le feuilleton continue depuis avec des dommages collatéraux qu'il est intéressant, c'est vrai, d'observer dans le détail. Alors on va prendre un détail du tableau ce matin, un détail de plusieurs dizaines de millions de tonnes, le marché du soja. Bonjour Thierry Pouche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris et chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous avez dirigé, Thierry Pouche, une étude des chambres d'agriculture sur cette question. Soja, les ondes longues d'une guerre commerciale. Il faut dire pour commencer que la Chine a réagi aux sanctions douanières américaines en taxant à son tour des produits américains et principalement des produits agricoles et alimentaires, ce qui est une tendance ces dernières années quand dans ce genre de guerre commerciale.
Oui, on l'avait vu déjà avec la Russie au moment des sanctions infligées par les États-Unis et l'Europe. La Russie avait réagi en taxant, en mettant un embargo sur des produits agricoles. Et là, la Chine, qui a été la cible de l'augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, a également rétorqué sur l'un des secteurs les plus performants des États-Unis, c'est-à-dire l'agriculture, donc le soja, la viande de porc, les produits laitiers, le sorgho, le coton, etc. Donc il y a eu effectivement le déclenchement d'une guerre commerciale passant par les tarifs douaniers sur les produits agricoles
Alors pour l'instant, Pékin a fait une pause dans les surtaxes douanières sur le soja, sur le porc aussi d'ailleurs. Mais on a déjà du recul pour comprendre les effets de la guerre commerciale de plusieurs mois sur ce marché. Soja dont vous dites, Thierry Pouche, dans votre étude, que son enjeu géopolitique a été anticipé depuis longtemps par les observateurs, avec pendant longtemps une hégémonie des États-Unis sur ce marché. Depuis quand ?
Depuis les années 20-30 à peu près, où les États-Unis mettent en place une culture du soja à destination essentiellement de l'alimentation animale. Et puis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à travers le plan Marshall notamment, l'hégémonie américaine se déploie et l'Union européenne, malgré la politique agricole commune, devient dépendante des États-Unis pour l'alimentation du bétail. Cet apport en protéines végétales absolument gigantesque, hein, c'est une des denrées les plus riches en protéines. Donc l'Europe, en échange de la PAC, accepte d'ouvrir ses frontières au soja américain.
C'est une pression des États-Unis. D'ailleurs, c'est eux qui leur demandent de ne pas subventionner le soja européen.
Absolument. Donc il y a une hégémonie et une dépendance de l'autre côté qui va durer jusqu'aux années 70 à peu près, au moment où le Brésil lui-même met en place des cultures de soja sur de grandes surfaces et devient l'un des principaux concurrents des États-Unis, au point aujourd'hui de les dépasser en termes d'exportation. Le Brésil est le premier exportateur mondial, même si les États-Unis restent le premier producteur mondial, mais de peu. Hein. Le Brésil est maintenant l'un des grands acteurs du marché mondial du soja.
L'Argentine aussi ?
L'Argentine aussi, mais
dans
une moindre mesure, un peu plus loin derrière quand même.
Alors, la Chine devient l'un des principaux clients de ces pays producteurs de soja, notamment à la faveur de son boom économique dans les années 90. C'est l'un des plus gros acheteurs au monde aujourd'hui, surtout d'ailleurs depuis que les agriculteurs chinois ont laissé tomber eux-mêmes la production de soja qu'ils produisaient avant à grande échelle, mais les contraintes agronomiques étaient trop lourdes. Donc on en vient à 2018, première mesure américaine contre les exportations chinoises et première mesure de rétorsion chinoise, et là nécessairement le Brésil profite de l'aubaine.
Exactement. Alors il en avait déjà un peu profité auparavant, puisque depuis 2014-2015, le Brésil avait supplanté les États-Unis comme premier fournisseur de la Chine en soja, en graines de soja, hein, ça c'est important, puisque la Chine détient encore des usines de trituration du soja pour faire des tourteaux.
Oui, on dit triturer.
Et de l'huile, et voilà, on dit triturer, oui. Donc le Brésil a supplanté déjà avant le déclenchement de la guerre commerciale les États-Unis. Mais évidemment, depuis l'année dernière, le Brésil devient maintenant encore plus le premier fournisseur de la Chine. Lorsque les États-Unis ont pris ces mesures tarifaires contre l'acier et l'aluminium et que la Chine a réagi, évidemment, le prix du soja avec les droits de douane, ça coûte plus. Donc le soja a indiqué aux autorités chinoises qu'il se substituerait aux États-Unis pour approvisionner la Chine en soja.
Sachant qu'il n'est pas concurrentiel, surtout le Brésil par rapport aux États-Unis. Vous rappelez dans votre étude les contraintes d'infrastructures moins performantes, les routes régulièrement coupées par les intempéries. Donc le Brésil essaye de s'organiser pour répondre à cette demande et se positionner sur le marché. Comment la guerre commerciale États-Unis-Chine se répercute sur les prix, sur les cours mondiaux du soja et partout dans le monde, bien au-delà des seuls deux protagonistes de cette guerre ?
Alors, dès le déclenchement du conflit commercial par Donald Trump, on a vu tout de suite, avec les réactions de la Chine, l'effondrement du prix du soja sur le marché mondial. D'abord parce que ça correspondait à une surproduction sur le marché. Et en plus, les opérateurs devenaient inquiets parce que les flux seraient évidemment moins importants avec la fermeture du marché chinois au soja américain. Donc, il y a eu un effondrement du prix du soja qui est quand même très préjudiciable, en particulier pour les producteurs américains qui connaissent aujourd'hui une crise sans précédent, baisse du revenu, baisse des exportations, ce qui fait que l'État fédéral, en plus des soutiens habituels inscrits dans la politique agricole américaine, sont obligés d'apporter des aides exceptionnelles depuis l'année dernière aux producteurs américains et de soja en particulier. On en est aujourd'hui à un peu plus de 25 milliards de dollars d'aides exceptionnelles qui posent des tas de problèmes à l'OMC, évidemment. Bon, ça, c'est peut-être pas la peine de détailler, mais on voit bien qu'il y a des répercussions sur le cours mondial qui est aujourd'hui très bas.
Quelles sont, pardon, les répercussions à l'OMC en quelques mots?
Les aides exceptionnelles accordées par les États-Unis sont des aides, ce qu'on appelle couplées à la production, c'est-à-dire qui incitent les producteurs à produire en fonction de ces aides. Et ça, c'est strictement prohibé à l'Organisation mondiale du commerce.
Donc on a des stocks de soja qui augmentent, on a une consommation en berne, et d'autant qu'en Chine, la peste porcine africaine a nécessité que les éleveurs abattent une partie de leur cheptel, donc ils ont moins besoin de soja. Donc tout, voilà. Et donc les prix du soja sont en train de s'effondrer. On ne peut pas, Thierry Pouche, ne pas évoquer, comme vous le faites aussi dans votre texte, la question environnementale. Le Brésil, ayant pris la place des États-Unis pour l'instant comme exportateur de soja vers la Chine, il a sans doute, j'imagine, prévu de consacrer encore de nouvelles parcelles de forêt à la culture de soja. Donc la déforestation va en prendre un coup.
Alors c'est ce qui se dit, la controverse est quand même assez intense autour de cette question de la déforestation. Certains spécialistes estiment qu'elle n'est pas si importante que ça, d'autres pensent qu'au contraire les hectares vont être déployés au détriment de la forêt, mais il n'en reste pas moins que le Brésil, en répondant de plus en plus présent comme fournisseur de la Chine, va nécessairement, s'il veut déployer ses avantages comparatifs dans ce type de culture, mordre évidemment sur des hectares disponibles avec la forêt.
Et ça concerne et ça regarde aussi les pays de l'Union européenne qui sont en train d'élaborer un traité de libre-échange avec les pays d'Amérique latine, dont le Brésil, oui. Le Mercosur. Vous êtes d'ailleurs vous-même, Thierry Pouche, entendu cet après-midi par une commission du Sénat sur cet accord et sur les effets du Mercosur sur les éleveurs européens. Comment les Européens, qui sont devenus dépendants du soja brésilien, du soja argentin, ça fait longtemps qu'ils n'utilisent plus, pour la plupart d'entre eux, le pois, la luzerne ou le trèfle pour donner des protéines végétales à leurs bêtes. Donc comment cette guerre commerciale peut peut-être avoir des vertus en repositionnant chacun sur cette question du soja, peut-être en diminuant tout simplement la consommation de soja.
Alors, retrouver une forme d'autonomie en protéines végétales, c'est un projet qui est déjà ancien. Il y a eu en France et en Europe des plans successifs pour redéployer l'autonomie protéique sur cette zone. Alors pour la France, ça peut être une opportunité pour revenir justement à des légumineuses ou à des oléagineux qui ne soient pas le soja. Mais
et qui fertilisent naturellement le sol en azote, d'ailleurs.
Exactement.
Donc on a moins besoin d'engrais.
Ce qu'on regarde, c'est qu'on utilise de plus en plus, par exemple, de tourteaux de tournesol, mais qui sont fournis par l'Ukraine. Donc on est sous une autre forme de dépendance. Donc effectivement, on peut retrouver une forme d'autonomie. On sait qu'on peut se passer du soja en France. On a tous les atouts nécessaires. Mais en même temps, il ne faut pas non plus retomber dans une autre forme de dépendance vis-à-vis de l'Ukraine sur des produits comme les tourteaux de tournesol. C'est quand même un gros producteur de tournesol et donc de tourteaux. Donc c'est à double tranchant. Hein. Si on veut vraiment avoir une autonomie, il faut s'en donner les moyens, sinon on retombe sous une autre forme de dépendance.
Marc Dufumier, l'ingénieur agronome, dit qu'il nous faudrait mettre des cultures de légumineuses, donc soja, luzerne, trèfle, févrole, lupin, sur 1,4 million hectares en France et qu'on pourrait les prendre sur 700 000 hectares de maïs en silage et sur 700 000 hectares de blé, de seigle et d'autres céréales que nous exportons, comme vous le dites aujourd'hui, vers des pays comme l'Égypte aussi, qui se fournissent déjà auprès de l'Ukraine.
Auprès de l'Ukraine, mais l'Égypte a aussi ouvert considérablement son marché ces derniers mois au soja américain.
Pourquoi ?
Parce qu'ils en ont besoin aussi. Alors c'est pas des quantités aussi importantes que celles de la Chine, mais sur 2016-2018, l'augmentation des importations égyptiennes de soja en provenance des États-Unis a augmenté de 700%. Voilà. Et en Europe, il y a eu un accord au mois de juillet 2018 pour importer davantage de soja américain et compenser la perte du marché chinois. Et donc ce sont les Pays-Bas et l'Espagne, qui importe le plus aujourd'hui de soja en provenance des États-Unis.
Donc pour l'instant, on s'en sort pas, quoi. Merci beaucoup, Thierry Pouche. On met en ligne votre étude coécrite avec
Quentin Mathieu
sur le site des Enjeux internationaux sur France Culture. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le Théâtre de la Ville vous invitent à passer une journée avec Rudyard Kipling. Revivez les aventures de Mowgli, le petit homme élevé par des loups. Lecture d'extraits du livre de la jungle par Jacques Gamblin. Musique originale Mahu. Réalisation Juliette Eman. Rendez-vous ce samedi de 15h à 18h à l'espace Cardin à Paris à l'occasion des représentations du Jungle Book de Robert Wilson et Coco Rosie par le Théâtre de la Ville au 13e art. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Kervran.
On dit des policiers qu'ils sont des gardiens de la paix. Mais pour ça, ils sont armés et autorisés à faire usage de la force. Des flics sous pression aux lycéens à genoux, en passant par les affrontements des manifestations et le travail de fourmi de David Dufresne, LSD interroge la relation de la police à la violence.
Force de l'ordre, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Il est 6h57 et vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure de votre humeur du jour. Nutella fait de la politique, Guillaume.
Et oui, c'est cette drôle d'histoire que raconte le Parisien aujourd'hui. La célèbre pâte à tartiner chocolatée a décidé de boycotter Zemmour. Je veux dire qu'elle a décidé de ne plus diffuser de spots de pub avant l'émission de débat Zemmour et Nolo, diffusée tous les mercredis soirs sur la chaîne de télé Paris Première. En aucun cas, nous ne cautionnons les propos et prises de position de Monsieur Zemmour, a déclaré la pâte à tartiner sur Twitter, une phrase qui contient au moins deux informations, Julie. Petit 1, Nutella ne cautionne pas Zemmour. Petit 2, une pâte à tartiner a des opinions politiques, ou en tout cas des désamours politiques. Du coup, le devenir politique de la pâte à tartiner a déclenché une réaction politique. La Zemmourosphère a déclaré qu'elle boycottait Nutella, tandis que quelques personnes plaidaient pour le strict apolitisme des pâtes à tartiner, lesquelles devraient s'occuper de leur tartine et non pas se positionner en fonction de leurs amours ou de leurs désamours dans le débat public. Mais peut-être est-il temps que les masques tombent et que l'on sache enfin si Knaki Erta est de gauche ou si Danette est de droite. La Danette n'est-elle pas complice de Debout la France puisqu'on se lève tous pour Danette? Aucun aliment n'est neutre, même le tofu qui pourrait incarner le point neutre puisqu'il absorbe le goût du condiment avec lequel vous le cuisinez. Même le tofu ne peut pas être considéré comme absolument centriste. Il me paraît évident que le tofu a un net penchant Extinction Rébellion, largement plus à gauche que la gauche cassoulet, et je vous parle même pas de la droite tête de veau. Il existe une politique des aliments et il faut savoir gré à Nutella d'avoir fait cesser cette hypocrisie. Je vous rappelle par exemple que l'aile droite de la Macronie, les Darmanin et autres Édouard Philippe, se réunissaient sous le nom de Bellota Bellota, le Bellota Bellota étant un jambon espagnol qui vaut un bras. Une manière de rappeler que la viande est souvent à droite, que les légumes sont souvent à gauche, pas toujours mais souvent, y compris les grosses légumes, et je ne pense pas en particulier à un président de région. Reste à savoir si Nutella s'arrêtera là. On soupçonne Zemmour de vouloir se lancer en politique. Patinera-t-il sur le Nutella? Cela pourrait arriver si nos compatriotes votaient Nutella pour une France grasse et sucrée.
Et avec de la lécithine de soja.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Nouvelle polémique sur le fond et sur la forme. Comment mettre le feu à Twitter? Eh bien, en utilisant les thèmes suivants, race, laïcité, féminisme, nous recevons une personne qui est bien souvent au cœur des polémiques sur les réseaux sociaux, Rokhaya Diallo. Activiste, elle publie un ouvrage où il est question de ses différents combats. La France, tu l'aimes ou tu la fermes, aux éditions textuelles. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un joyeux réveil.